RMC.
Tradition. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
RMC, Football Show.
Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc, on est un peu dans l'excès. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, After est là jusqu'à minuit. Comme tous les soirs, nous sommes en direct, bien sûr, à la radio sur RMC, à la télé sur RMC, Sport News dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Jérôme Rotten est là. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir à tous.
L'événement ce soir dans l'After.
On me ramène une petite fête.
Ah non, pas du tout.
Pourquoi tu vas la voir enrouée?
Ah ben non, mais ça, c'est parce que je suis malade.
T'étais à la fête de fin d'année?
Non, je suis.
Franchement... On peut le dire, c'est un peu la fête de fin d'année.
Oui, non, mais j'ai eu mal à la gorge il y a deux jours. Là, c'est monté dans le nez.
Quand même.
Ouais, non, mais.
C'était cette grande année de Coupe d'Europe de Jérôme.
Parti très très tôt. Visiblement, d'autres sont restés.
C'est vrai.
Jérôme qui a brillé de mille feux toute la saison dans l'After.
Donc là, t'es obligé de montrer un peu ta tête parce que les gens te découvrent, du moins le contact, ils aiment le contact.
Je prends là pour toi.
Notez ça, SFR, ils sont coquins. Hein. C'est vrai, dans le d'à côté. Là.
Oui, c'est parce que c'est juste à côté. Je disais donc, l'événement ce soir dans l'After, c'est la présence d'Antoine Mordac, le patron de la division nationale contre le hooliganisme. Un petit bilan sécurité. Il est venu il y a quelques mois dans l'After, c'était très intéressant.
Alors, son bilan est bon.
Bah, on va voir. Il sera avec nous dans quelques minutes.
Il a ses petites notes.
Il a tout en tête, à mon avis. T'inquiète pas.
Très bien.
Il sera là tout à l'heure avec nous, bien sûr. Juste après notre débat actu du jour. Alors, on va parler de Buffon, bien sûr. Il quitte le PSG.
On veut pas vraiment le débat, là.
Oui, enfin bon. Quand même évoquer l'échec ou pas de la venue de Buffon quand même parce que bon ouais. On en parle dans quelques instants. On parlera de Gianni Infantino réélu par acclamation, totalement surréaliste.
La mafia suisse, on a du mal à concevoir mafia suisse, pourtant
on en parlera tout à l'heure,
c'en est une.
Et puis on parlera d'une histoire africaine totalement hallucinante. On vous en a parlé ce week-end, rappelez-vous, la finale de la Ligue des Champions entre l'équipe tunisienne de l'Espérance et l'équipe marocaine du WAC, le club de Casablanca. Match arrêté avant la fin, une histoire de VAR absolument incroyable et un rebondissement ce soir. Cette finale retour de Ligue des Champions africaine va être rejouée. Tout à l'heure, l'avocat de l'Espérance Tunis sera avec nous. Et bien sûr, si vous êtes supporter d'un de ces deux clubs, on vous attend.
L'Espérance de Tunis.
Ouais, il sera là. Et ils sont remontés comme des pendules, l'Espérance. Donc, on vous expliquera tout à l'heure.
Comme des coucous aussi.
Comme des coucous. Et puis, la suite de la draft de notre match de l'After. Ah, vous savez, avec vos choix d'hier, on fait... Je pense que j'ai reçu 50 SMS. Deux mecs pas draftés, vexés. Deux mecs draftés, surpris.
Franchement, il y a des types, ils peuvent pas être vexés de pas avoir été choisis dans les premiers. On a quand même été logique.
Je donnerais pas les noms, évidemment.
Moi, il y en a, je me suis expliqué. Ludo Bragnac.
Ah bon?
Ouais, je me suis expliqué. Bah, c'est normal, je suis son coach, donc c'est à moi de lui donner des explications. Bah, je le rassurais en lui disant que c'était mon leader technique.
Tu l'as choisi.
Ouais, mais en troisième, donc il était un peu, il se disait ouais, pourquoi pas dans les deux premiers, donc je lui ai donné mes explications.
Les deux premiers, t'avais pris Chérou
et Siani.
Ouais, mais alors, donc, Ludo, si tu nous écoutes, Ludo, c'est bien là aussi qu'il faut que tu te rendes compte et que tu saches dans quelle équipe tu es. Si moi j'avais eu les deux premiers choix, non. T'étais dedans.
Mais attends.
T'étais dedans.
Mais t'as pas honte, toi, tu sais ce que tu lui as fait.
Pardon.
Les deux choix, t'as pris Kevin Diaz,
un
joueur amateur, plutôt que Ludo Bragnac, qui est quand
Comment
même.
Tu prends Ludo plutôt que Kevin Diaz.
Non, mais là c'est une erreur. C'est une erreur incroyable ce que tu fais.
Il l'a pris en trois, donc après les deux premiers choix.
Si t'es dispo après.
Bah oui, évidemment.
Allez, je m'enfonce.
Ah oui, tout en
ouais, donc là, tu vois, et là, il est encore plus vexé par ton choix que par le mien. Donc je m'en sors bien, si tu veux.
La suite de la draft tout à l'heure.
Oui, t'es idiot.
Le 32-16 est ouvert hein, à tout instant, non, bien sûr, pour débattre. Ludo, n'hésitez pas à nous appeler.
Tu l'as enlevé de ma liste.
Daniel, non, s'il te plaît.
Bah, arrête.
Ludo, Jérôme a truqué les listes.
Non.
Hashtag RMC Live, direct studio, on vous attend. Il y a un match ce soir et il s'est passé un truc absolument incroyable, il y a quelques minutes à peine, dans le match.
Mais dites pas le prendre.
Portugal-Suisse. C'est la demi-finale, la première demi-finale de la Ligue des Nations. Vous savez, la Ligue des Nations, la France n'est pas, puisque.
Ouais, il y a eu quoi?
Voilà. Arnaud Souk va vous raconter.
J'ai oublié de je sais pas de quoi on parle, cette compétition. J'ai oublié,
La France a fait une phase de poule, rappelez-vous.
Il y avait devait être en phase finale.
Les quatre premiers de chaque poule, de la poule A, des poules A, et puis vous voyez les poules B,
C.
Exactement.
C'est ça, ça y est, on y est à ce truc-là?
Voilà, et là c'est Portugal-Suisse, la première demi-finale. Arnaud Souk suit le match. Arnaud, que s'est-il passé? Raconte-nous il y a quelques minutes.
Alors 65 minutes déjà de
si
jeu
c'est Arnaud
déjà
Souk, c'est normal
partout,
que ce soit le bazar ce
un
match.
Partout entre le trop Portugal facile. Et la Suisse, c'était Cristiano Ronaldo qui a toujours ouvert la marque d'un superbe coup franc à la 25e, égalisation donc de Ricardo Rodriguez sur penalty il y a quelques minutes à la 57e. En fait, ce qui est un peu alors incroyable, mais faut pas non plus pousser, mais en tout cas c'était assez surréaliste de voir les images, c'est-à-dire que il y a eu une attaque suisse, il y a un joueur qui s'est écroulé dans la surface de réparation. Les Suisses ont demandé pénalty. L'arbitre n'en a eu que faire et a laissé jouer. Sur la contre-attaque portugaise, il a sifflé un pénalty en faveur du Portugal. Là, l'arbitre vidéo, le camion vidéo l'a appelé pour lui dire attention, il y a peut-être un pénalty juste avant pour la Suisse. Il avait signé le pénalty, il avait sifflé le pénalty pour les Portugais. Il a fait machine arrière et a donc sifflé le pénalty qui soi-disant était arrivé
tout le monde a traversé
avant ça
le terrain pour aller
en
de l'autre
faveur
côté
de la Suisse. Exactement. Enfin, alors moi, ce qui m'étonne un petit peu dans cette histoire quand même, quand on revoit les images, j'ai pas le sentiment que le défenseur portugais fasse une faute énorme sur l'attaquant suisse. La deuxième chose, c'est qu'au départ, les Suisses y réclamaient une main de la part du défenseur portugais et voilà. Et on siffle quand même un pénalty. J'ai un petit peu l'impression que bah, c'est assez.
Mais là, ce qui est incroyable, Arnaud, c'est qu'on est passé d'un arbitre qui siffle un pénalty pour une équipe à pénalty pour l'autre équipe.
Ouais.
Comme ça, pam.
Bah en fait,
en un coup de VAR.
Mais non, mais c'est ce qu'on disait. C'est
hallucinant.
C'est ce qu'on prévoyait quand la vidéo n'était pas encore en fonction et qu'on disait ce qu'il pourrait petit à petit y avoir de pire, c'est le fait de remonter dans le temps.
Surtout que là, ouais.
En fait, tu sais pas
jusqu'où tu remontes.
Parce que bon, la règle dit que ce soit une phase arrêtée, mais sur une phase arrêtée, pourquoi tu reviendrais pas? Là, on est remonté à l'action qui donne péno pour la Suisse. Mais si juste avant, sur l'action, machin, un Portugais avait fait une faute qui éventuellement méritait un carton rouge, bah donc il y a la découverte que dans le foot, il y a des actions qui peuvent être virtuelles, que tu crois avoir vues mais qui n'existent pas. C'est des actions fantômes. Parce que finalement, le péno du Portugal, c'est un péno fantôme.
Ouais.
Qui est beaucoup plus évident que le péno des Suisses.
Mais peut-être.
Oui, alors après,
Suisse,
voilà. En plus là, évidemment,
après,
à la radio,
là-dessus, les interprétations.
À la radio, vous n'avez pas l'image.
Péno.
Mais l'image, moi, j'ai vu l'image. Pour moi, il y a pénalty 1000 fois pour le Portugal.
Ah oui. Ouais.
Mais pas pour les Suisses.
Mais
est-ce que sur l'action d'avant, il y avait une faute évidente qui aurait pu.
Il y a un contact.
Avoir deux actions virtuelles. Deux actions fantômes. C'est fantastique.
Ah, évidemment, les supporters portugais sont foudrage. J'ai Polo sur Direct Studio, là. Il me dit encore un vol de la VAR, l'UFA. Merci,
non,
les gars.
Ça va, je suis sûr qu'il était pour la VAR au départ. Et les gars qui étaient pour la VAR au départ, là, faut pas retourner votre froc maintenant, hein.
J'étais
pour la VAR, on va.
Non, j'ai même un supporter suisse, là, qui me dit, même en Suisse, les commentateurs ne comprennent pas ce qui se passe.
Bah, il a raison, Jérôme.
Mais
tu peux changer d'avis.
Comme le mec qui était contre la VAR, il peut se dire, ah, ben, en fait, il y a des choses qui sont pas.
T'as raison, j'ai dit que t'as raison, pas.
C'est vrai que ça se passe plus dans l'autre sens.
Quand je reconnais.
Le mec était pour la VAR et aujourd'hui,
deux secondes que t'as raison, tu devrais être quand même.
Ah ouais, franchement, ça arrive très rarement.
En deux bouts de phrase, il m'a retourné.
Voilà.
T'as raison. Bravo. Comment il s'appelait le gars? Je lui dis, reviens dans le camp du bien.
José.
Polo. Tu es dans le camp du bien maintenant.
Donc, je vous dis que c'est un portugais, il s'appelle José. Là,
bah, c'est Jérôme.
C'est le prénom du peuple.
De la société et du monde. Un portugais s'appelle forcément José. Bravo.
Mais
t'as raison, Jérôme.
C'est pas méchant. Ça se trouve, c'est son deuxième prénom.
Il va avoir une vision aussi étriquée.
Certainement qu'il l'a dans ses trois prénoms.
Un partout entre le Portugal et la Suisse. Il y aurait prolongation ou éventuellement, évidemment, hein, si
ça s'attaque, ce que tu viens de dire.
Si on reste à égalité, Arnaud.
Mon vieux.
Absolument. Et le vainqueur de cette rencontre, donc il y aura forcément un vainqueur, que ça soit au bout du temps réglementaire de la prolongation des tirs au but, rencontrera plus tard le vainqueur du match de demain, donc entre les Pays-Bas et l'Angleterre.
Voilà, Pays-Bas qui était dans le groupe de la France et qui donc est qualifié à la place de la France.
Et joue quand
donc la Ligue demain, des Nations. La Ligue des Nations, c'est Arnaud qui fait toute la campagne.
Absolument. Ouais. Tu vois, là, je suis à Porto ce soir, mon cher Jérôme, au Stade du Dragon.
C'est pour ça qu'on est parti, il savait qu'il allait avoir une belle compète, il s'était fait sa nouvelle coupe de cheveux, tu l'as vu.
Ouais,
il est beau, hein.
Il n'y avait pas grand chose dans sa valise, par contre.
Ah bon?
Bah ouais, j'ai vu sa valise, franchement.
Qu'est-ce que j'ai mis dans ma valise?
Arnaud Souk, c'est un mec très très fort, parce qu'il y a 20 minutes, il était au pot sur RMC Sport à 200 mètres.
Et là, il est à Porto.
Et là, il est à Porto. Et ça, je vais te dire, il y a que lui qui arrive à faire un truc pareil.
Ah, t'es pas à Porto, Arnaud.
J'ai chapeau l'artiste.
Bon, t'es déçu, Daniel.
Putain, mais quand tu l'as lancé, j'ai dit, mais je suis sûr de l'avoir vu tout à l'heure au pot. C'est pas lui. J'ai vu ta petite mèche qui se baladait.
C'est ça.
T'as pas vu? Si, c'était les cheveux, Daniel.
Les cheveux de Guy Hubert dans Papy Fiedler.
Ouais, c'est vrai que j'ai vu.
Un partout entre le Portugal et la Suisse. Arnaud, tu le tiens informé, bien sûr, dès qu'il y a une évolution de score. L'actu principale du jour, c'est Buffon. Donc, le PSG communique tout à coup, pam, de façon inattendue aujourd'hui. On n'avait pas d'infos comme ça, tout à coup.
Tellement nul en communication, c'est toujours de façon inattendue quand il
et là, donc, communiqué du PSG. Bonjour, messieurs, dames. On vous informe. Buffon quitte le club. Allez, merci, au revoir. Voilà. Donc, c'est ça, un peu, en gros, le communiqué du PSG. Et donc, l'épilogue de cette histoire de gardien, un coup Areola, un coup Buffon. Donc là, en gros, on a tranché dans le vif. On n'a pas plus d'éléments ce soir à donner concret. Il y a quelques rumeurs qui circulent. Buffon qui aimerait continuer ailleurs, mais il y a rien de confirmé ce soir. On emploie le conditionnel.
Il y a tout du flop quand même. Là,
c'est la question que je voulais vous poser.
Chronique d'un échec total.
Est-ce qu'au final, on considère ça comme un échec?
Qu'est-ce que veut dire d'autre?
C'est plus qu'un échec, parce que si en plus de ça, Buffon, il veut continuer, ça veut dire qu'il est venu se rendre compte que il y a de gros problèmes au Paris Saint-Germain dans sa gestion, dans la gestion du vestiaire déjà, parce que lui c'est un homme de vestiaire. Donc là on parle même pas du directeur sportif ou du président ou même des autres qui peuvent être amenés à prendre des décisions, mais on parle de l'ensemble des joueurs, lui avec le professionnalisme qu'il a. Et j'ai eu des échos, c'est pour ça que je parle comme ça et que ça me... Et moi j'ai été très critique envers Buffon, parce que oui, sportivement, t'avais l'impression qu'il était sur le déclin. Daniel, tu le prends, c'est que tu penses, et lui le premier, qu'il peut évoluer à son meilleur niveau pour aider le PSG. Ok, ça, sportivement, c'est un flop, mais c'est encore plus un flop dans le vestiaire. C'est parce que ils l'ont pris aussi par rapport à ce qu'il représentait, le charisme qu'il a, l'expérience qu'il a. Il a essayé d'expliquer des choses à certains, c'est rentré dans une oreille, c'est sorti dans l'autre, et qu'au bout de quelques semaines, il s'est rendu compte que c'était trop compliqué. Moi, j'ai juste une petite anecdote, là, quand il est arrivé dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, au bout de quelques jours, les mecs, ouais, tiens, on fait une soirée là, tu viens, on est plusieurs, nanana, nanana. Il leur a répondu, moi je suis pas venu à Paris pour visiter les boîtes de nuit ou les restos, quoi. Je suis là pour faire.
Les mecs sont bien placés, ils vont rentrer partout.
Hein. Exactement. Non, mais pour te dire à quel point déjà.
Il était choqué, quoi.
Bah oui, ça l'a choqué parce que lui, il est venu. Attends, quand tu viens à 40 balais, alors que t'as passé toute ta vie à Juventus de Turin, tu viens pour passer peut-être le cap enfin de la Champions League, essayer de la gagner avec un club qui a des grands joueurs, et c'est le cas du Paris Saint-Germain. S'il passait pas, c'est qu'il y avait des choses à corriger. Il a jamais réussi. Et aujourd'hui, je suis persuadé que c'est même pas le club qui le fout dehors. C'est lui qui a décidé. Il a dit bon, écoutez. Laisser Areola numéro 1 et moi je me barre.
Bah en fait quand il vient déjà on a bien compris qu'il y a deux idées qui sont poursuivies à ce moment-là, c'est le coup de l'image, parce que c'est bien d'avoir un mec comme ça dans le vestiaire.
Par ailleurs, on avait quand même l'impression que c'était un peu le fait du prince, c'est-à-dire en gros un mec au Qatar qui s'est réveillé un matin, qui dit tiens, on peut faire venir Buffon.
Parce que je te dis,
ça répondait pas à une stratégie.
En termes d'image, c'est un peu, c'est en gros, bon, c'est la classe d'avoir Buffon. C'est un peu comme si tu t'es payé un super beau costume soirée, quoi. Voilà.
T'avais pas prévu, mais tu passes devant la boutique, tu dis il est chouette, je le prends.
Voilà, le mec rentre et dit tiens, le costume, là, je te le fais à pas cher, il est super classe, avec ça t'auras de l'allure.
Très bien. Allez,
deuxième but poursuivi, c'est je mets de l'expérience dans mon vestiaire, puisque c'est ça que le PSG recherche dans ses grandes idées. Visiblement, ça va jamais très très loin, mais en tout cas, il y a ça. C'est on rappelle l'historique, Emery la Grinta, Daniel Alves l'expérience et aussi un peu la Grinta, Buffon expérience Grinta. Voilà. Enfin, on connaît le truc, c'est on encadre un peu, on pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc Buffon, il y avait ces deux idées là. À l'entraîneur de se démerder après. T'avais dit dès le début de la saison, Jérôme, de toute façon, on sait bien que les matchs de Ligue des Champions, si t'as pris Buffon, c'est pour que ce soit lui qui joue.
C'était le cas.
C'était grosso modo ce qui s'est passé. On s'est aperçu ensuite, finalement, Areola est pas tant que ça en dessous. Donc, est né le bordel qu'on attendait. On a l'alternance, c'est comme la saison est partie, de toute façon, en vrille. Ouais, ouais. Après, c'est devenu un petit peu n'importe quoi. Échec total au final. Buffon, lui, était venu en se disant, vu l'équipe qui sont en train de se construire, il y a peut-être moyen que je réalise mon rêve, on sait jamais, d'aller toucher la Ligue des Champions.
Sur deux ans.
Ça a été échec pour Buffon. J'espère qu'il a quand même profité de 2-3 trucs à Paris, quand même. Voilà. Échec pour Buffon, échec pour le PSG. Encore une idée foireuse, quoi. Bon, voilà. Malheureusement, ça tombe en plus sur un type extraordinaire.
Ouais, c'est ça. C'est plus ça, mais en plus, c'est idée foireuse. Oui ou non, mais ça montre encore une fois, et la réflexion des dirigeants, elle doit être là-dessus. C'est que je sais pas qui a pris la décision, mais je pense que Buffon en est responsable à plus que 70% hein, de cette décision de partir. C'est surtout encore une fois montrer qu'il y a un vrai problème dans ce club et même dans le vestiaire, et que là il faut mettre une petite bombe, faire partir beaucoup.
Pour faire le grand frère de Verratti, alors maintenant qu'il part, putain là.
C'est marrant parce que
je dirais pas le nom de la boîte, mais
sur le hashtag RMC Live,
les bouteilles ça va retomber là.
Sur le hashtag RMC Live, j'ai VIP75 qui me dit ah c'est reparti sur le PSG. Là c'est Buffon, ça va dériver sur Verratti. Et hop bam, que se passe-t-il?
Ah ouais. Comment tu veux faire?
Bon, fais pas une fixette sur
juste quand même. La décla du soir de Buffon qui vient d'arriver. Buffon dit sur son compte Instagram, il dit je repars. Voilà, il dit allez Paris, merci, bonne chance. Voilà, bon, il dit je repars enrichi et satisfait par une expérience qui sans doute m'a amélioré et m'a fait croître, dit Buffon. Aujourd'hui se termine mon aventure hors de l'Italie. Le PSG m'a proposé de renouveler mon contrat, mais je ne me suis pas senti d'accepter, poussé par le désir d'affronter de nouvelles expériences. Sous-entendu, il a peut-être un truc qu'on lui a proposé.
Eh, non mais certainement.
Non, voilà. Mais peut-être. Franchement, ça m'intéresse pas de savoir où est-ce qu'il va finir.
Franchement, Gilbert, d'un moment, on est pas con, on sait lire entre les lignes. Du moins, quand un joueur comme ça, avec l'expérience qu'il a, l'âge qu'il a, veut encore profiter de sa bonne hygiène de vie et se sent capable d'évoluer à un bon niveau ou un autre projet, c'est vraiment parce que ici il y a plein de choses qui le déplaisent, et c'est pour ça qu'il s'en va. C'est aussi simple que ça, que ce qu'il avait en tête quand il est arrivé, eh ben c'est impossible de le réaliser à Paris. Donc je préfère de me barrer que de vivre encore une année l'année prochaine, vu que ça va pas changer. Parce que c'est pas parti pour changer, bah encore une année prochaine où il y aura des illusions.
Aïssa est avec nous pour conclure sur ce dossier Buffon. Aïssa, supporter de Paris. Salut Aïssa.
Bonsoir les gars, comment vous allez?
Bah ça va toi?
Ouais, bah le dossier Buffon, bah voilà, encore une erreur du PSG. C'est-à-dire qu'on prend un gardien, de toute façon on connaissait le standing du monsieur. Après, sportivement parlant, est-ce que c'était vraiment le gardien qui nous aurait fait passer un cap cette saison? Moi, je suis pas forcément certain. Après, ce système de turnover, un match Buffon, un match Areola, je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire du football. Je trouve que ça a été vraiment n'importe
non,
quoi.
Non, c'est pas du jamais vu. C'est le Barça l'a fait déjà il y a quelques années, rappelle-toi.
Oui, le Barça l'avait fait avec Valdés.
On n'est pas habitué, quoi.
C'était qui, là? Ter Stegen. Ils ont tourné avec Ter Stegen.
Ter Stegen, hein, Ligue des Champions.
C'est-à-dire que c'est quand même assez incroyable qu'il y ait un turnover. On voit bien comment ça tourne en règle générale. C'est-à-dire qu'il y a un gardien qui fait le championnat, vous avez un autre gardien qui fait les coupes. Là, à un moment donné, c'était un jour, il joue en coupe, après il joue la Ligue des Champions.
Oui, puis après il va faire le match avant la Ligue des Champions, puis la Ligue des Champions, et puis
où on frôle l'amateurisme. Donc que le mec se barre, c'est une réalité. Moi, je rejoins totalement Jérôme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gars a vu que c'était pas quelque chose de sérieux. Il est avec des petits jeunes qui veulent aller en boîte, qui veulent s'éclater. Le gars est venu pour glaner un titre qu'il n'a pas eu dans sa carrière. Donc je pense que ça a été très, très, très mal, très, très, très mal fait. Et ce qui fait un peu de peine, c'est que ce bonhomme-là, c'est vraiment un bonhomme du football, s'arrête comme ça, en tout cas, sur, en tout cas.
Après, Aïssa. Essayons de réfléchir ensemble, qu'est-ce qui aurait pu faire que cette expérience soit une réussite? Évidemment, tu vas me dire.
C'est-à-dire que par exemple, si on pose les bases, disons, bah voilà, Buffon serait par exemple le gardien numéro 1 en championnat, Areola sur les coupes nationales, et après, peut-être, je sais pas comment ils auraient géré ce problème-là, ou dire que voilà, Ligue 1, c'est Buffon, Ligue des Champions, c'est Buffon, et cette année-là, Areola, il fait que les coupes. Donc je sais pas, ils auraient pu au moins avoir vraiment un dialogue entre eux. Moi, j'ai pas eu vraiment ce sentiment qu'il y ait eu un vrai dialogue entre tous les interlocuteurs. Ça a été un petit peu fait à la va-vite. Bon, comme Buffon, il est là, c'est un mec de standing, on va le faire jouer une fois là, une fois ci, une fois comme ça. Enfin, c'était n'importe quoi. Et c'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage.
Ah, tu sais, Aïssa, je pense que le problème, il est pas dans le est-ce qu'on leur a dit à Areola, à Buffon quand il est arrivé, et moi je le disais dès sa signature, et ça m'a donné raison, c'est que les gros matchs, les matchs qui comptent, je te parle pas des matchs quand il commençait à faire du turnover en Champions League, match de poule, parce que au début c'était facile de le faire, déjà parce que Buffon était suspendu. Et que après les matchs qui ont compté où Paris était sous la menace d'une élimination, c'est Buffon qui a joué. Et c'est Buffon qui a fait les gros matchs. Et que.
Mais Buffon dans les phases de poule et dans les matchs qu'il a joué, il a été bon,
ouais,
très bon. Il s'est cagué comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'on attendait de pas de lui qu'il se cague, parce qu'il vient avec son expérience. C'est
Manchester,
pas de lui
retourne, hein.
Que contre Manchester, il relâche un ballon comme ça, dans une soirée aussi merdique.
Ouais, et qu'il fasse une sortie.
Voilà, c'est là. Et là, en fait, tu te dis, non seulement ça n'a pas été une réussite dans la gestion, dans le machin, mais en plus, il s'est déchiré quand il fallait pas.
C'est un poste où, voilà, il faut quand même du temps de jeu, il y a très peu d'arrêt à faire, mais il faut toujours être sur le qui-vive. Et malheureusement, un mec comme Buffon qui a jamais été habitué, on fait quand même se dire la vérité, il a passé combien d'années sur un banc? Jamais, il a toujours été titulaire. C'est-à-dire que quand on prend un mec comme ça, une entité comme ça, on sait que quoi qu'il arrive, on est obligé de le faire jouer. Et si on lui enlève la confiance, même à un mec comme ça, Gigi qui soit, il a perdu un petit peu de confiance cette année. Et ça a été très, très, très mal géré. C'est vraiment dommage. Moi, je suis vraiment déçu qu'on lui propose pas un poste pour gérer les gardiens ou autre chose. Voilà, on va dire
que... Non, mais il a envie de faire autre chose, peut-être. Il a pas envie d'être entraîneur de gardien, bouffon entraîneur de gardien. Ça fait un peu, tu vois.
Mais je trouve qu'on a vraiment mal géré parce qu'on avait vraiment...
Un mec comme ça doit devenir dirigeant, tu vois, un jour ou l'autre.
Alors, tout de même, une conséquence de tout ça, Areola va être le numéro 1.
Bah, on ne sait pas, il y a Trapp qui revient, est-ce que justement... Non, mais
aujourd'hui, il a raison.
Areola et Trapp, on fait quoi? Areola numéro 1, Trapp numéro 2?
Tuchel va décider pendant les préparations qui sera le 1 et le 2, tout simplement. Mais il y aura un vrai 1 et un vrai 2.
Écoute, franchement, moi, Alphonse, je trouvais en progression l'année dernière, avant sur la fin de saison. La Coupe du Monde, en début de saison, lui avait donné cette confiance là, mine de rien, même s'il a pas joué à la Coupe du Monde, mais bon, il est dans le groupe, il est champion du monde, ça lui a donné cette force là encore plus. Maintenant, j'attendais ce qui progresse sur la façon de et le fait de vivre avec Buffon.
En caractère et en charisme, là, ça va être compliqué.
Exactement. Non, mais
s'il a pas en lui, quoi.
Moi, ouais, mais mine de rien, quand tu lui ramènes Buffon, tu dois te servir de son charisme à Buffon pour essayer d'apporter ça pendant les matchs, de rassurer tes défenseurs. Et franchement, il a pas fait des mauvais matchs cette année. Mais
non, bien sûr.
Mais j'ai pas senti cette progression et je doute aujourd'hui. L'année dernière, je doutais pas. Je disais que c'est un jeune gardien encore. Il faut maintenant, il est plus tout jeune. Il commence à avoir de l'expérience. Mine de rien, il lui manque des choses. Et je pense que Paris, s'ils changent pas leur effectif, ils ont pas l'air de vouloir prendre un mec derrière, tu sais, d'expérience avec un peu
de la défense. Un mec,
ils ont pas l'air de vouloir, Daniel.
Le fait qu'ils voulaient prendre juste Buffon pour rameuter.
Ouais, exactement. Exactement.
C'est,
et le fait.
C'est un peu dommage parce que c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi que les joueurs, que ce soit sur le terrain, ils aient aussi cette conscience collective de dire, faut qu'on fasse les efforts ensemble. C'est pas un seul mec qui va arriver, qui va changer la mentalité.
Ouais. On peut revenir. Je veux dire que les équipes qui sont devant en Europe ont des gardiens meilleurs que Areola.
Il y a plus de
terrain ou autre chose. Donc, je pense que le problème plus profond, c'était pas que le cas Buffon cette saison. Après, malheureusement, c'est lui qui en paye les conséquences. Donc après, comme tu disais, Jérôme, de toute façon, clairement, c'est lui qui a dit qu'il voulait se barrer. Il est très, très classieux. Donc il a fait ça. Il a fait une petite pirouette technique à l'italienne. Donc voilà, mais.
Non, mais après, juste pour finir, Gilbert, tu disais, donc là, c'est clair que Areola soit numéro un. Et en plus de ça, dans son comportement, et là, je le dis aussi parce que j'ai beaucoup de sources, beaucoup de gens qu'on côtoie, qui sont des amis d'Alphonse et qui me racontent des choses. Je peux te dire qu'il a complètement changé. Depuis qu'il a re-signé, c'est plus le même. T'arrives plus à lui dire des choses. Dans son attitude, elle est vraiment loin d'être positive. Donc tout ça rassemblé, je pense que lui donner la place de numéro 1 l'année prochaine, c'est prendre un énorme risque. Vraiment.
Et Trapp fait une bonne saison avec Francfort.
Et Trapp fait une super saison. Mais Trapp, attends, je suis désolé, hein, Trapp, ils ont décidé de s'en séparer parce qu'ils pouvaient pas avoir Buffon, Areola et Trapp. Ouais. Mais Trapp, je suis désolé, Trapp, alors attention, il a pas fait que des grands matchs, sinon il y serait encore.
Bah oui.
Mais cette année, il fait une grande saison et peut-être qu'il avait aussi besoin de ça pour se remettre aussi en question. Mais dans le comportement, dans ce qu'il dégage, je trouve que Trapp dégage plus de sérénité qu'Alphonse Areola.
Aïssa, merci beaucoup.
Très bonne soirée, les gars.
Salut à toi. À bientôt. Rappelle quand tu veux au 32-16.
Vous allez peut-être trouver ça con, ce que je dis. Il y a un truc chez les gardiens qui, pour moi, est un peu révélateur du caractère que t'as et tout. C'est quand tu prends un but, le gardien qui, tu sais, qui a l'attitude un peu les bras ballants ou qui soupire un peu, qui fait et qui avec les bras fait pff, et pire, qui shoot dans le ballon à nouveau dans son but
et qui se remet un but.
Moi, les gardiens qui font ça, pour moi, c'est, je sais pas, je trouve que c'est très mauvais signe sur leur caractère et qui ils sont.
Ouais, ouais. Un Buffon qui applaudit dès qu'il a pris un but.
J'ai l'impression que les grands gardiens ne font pas ça. C'est une sensation comme ça. Je voudrais en parler avec Charbot.
Je crois que c'est de la réaction spontanée. Moi, je faut pas y voir.
Le Charbot, il pouvait pas frapper avec le pied dans le but parce qu'il était capable de le rater.
Alors, Gilbert,
avec les pieds qu'il avait.
Je rappelle que c'est ton gardien du match de l'after.
Mais moi, il est interdit de relancer au pied.
Je suis désolé.
Faut qu'on s'arrête, Daniel.
Attends, je suis désolé. Tu ne peux pas dire réaction spontanée. Le comportement, c'est quelque chose de toujours très parlant. Le corps dit énormément, le visage, ça dit énormément. Ça m'intéresse depuis des années, je suis même fasciné. On ne peut pas dire qu'un sportif, son corps ne parle pas. Ce n'est pas une réaction veut rien dire.
Non, mais c'est
quand
sûr.
Quand t'as la tête baissée, quand t'as la tête haute, quand t'as ce que mais, ton visage mais, dit,
j'aime bien,
ce que
j'aime
ton corps
quand tu fais ton contrat.
Mais non, mais il a
Christian Spitz.
Le comportement sur le terrain, nous, je suis désolé, dans un vestiaire, ça se travaille. Quand t'es jeune et même après, t'as des coachs qui te disent, écoute, la réaction là quand tu on prend un but, à lever les bras au ciel, à dire, en gros, tu fais une erreur, mais c'est pas toi, c'est la faute des autres.
Évidemment.
C'est un signe que t'envoies qui est négatif. À tout le monde.
Portugal, Suisse, Arnaud Souk, le score.
Un partout, toujours entre le Portugal et la Suisse, 85e.
Et on se retrouve tout de suite, tu nous en diras plus dans quelques instants. Bilan sécurité de la saison de Ligue 1 avec Antoine Mordac, le patron de la division anti-hooligan. On se retrouve dans quelques instants dans l'after. Il est là, Jérôme.
Ah ouais.
Tiens-toi à carreau. A tout de suite.
Moi, je suis en vélo.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
L'after est là jusqu'à minuit, Jérôme Rotten est là, Daniel Riolo est là, et avant d'accueillir notre invité, ça a bougé entre le Portugal et la Suisse, Arnaud Souk.
Eh oui, 2 buts de plus inscrits par les Portugais, 2 buts de plus inscrits par Cristiano Ronaldo, le triplé ce soir pour le joueur qui atteint désormais le nombre de 88 buts en 156 sélections, ça fait 3-1 en faveur du Portugal. Le premier de ces 2 buts, il l'a inscrit à la suite d'un centre de Bernardo Silva, le deuxième, il ne le doit qu'à lui-même, frappe à l'entrée de la surface de réparation, superbement enroulé. Le Portugal se dirige tout droit vers la finale de la Ligue des Nations. Il va rester 4 minutes à jouer dans cette rencontre dans le temps additionnel.
Merci Arnaud, tu nous confirmes le score définitif dans quelques instants, bien sûr. Antoine Mordac est avec nous, bonsoir. Merci d'être là. Vous étiez venu il y a quelques mois de cela, c'était en début de saison
En novembre. Oui.
En novembre, voilà. En novembre, je rappelle que vous êtes le patron de la division anti-hooligan et à l'époque on avait...
Si vous voulez...
Ouais, moi je préfère.
Très bien, monsieur le commissaire, allons-y.
Oui.
Donc à l'époque, on avait passé en revue un petit peu tout le dispositif existant, la situation en France, les difficultés que vous rencontriez au quotidien et tout. Et là, on est ravi de vous revoir pour faire un petit bilan de la saison. D'autant que vous savez que tous les supporters de France écoutent l'after, surtout les groupes ultras, et que souvent dans l'after, ils viennent râler en disant ouais, il y en a marre, les interdictions de déplacement, les interdictions de stade, on comprend pas et tout. Donc, l'important c'est la pédagogie. Donc on est ravis que vous soyez parmi nous à nouveau. Quel bilan peut-on faire de cette année? Est-ce que par exemple en termes de décision de justice, c'est mieux que la saison précédente? Est-ce qu'en termes de comportement général des supporters, c'est mieux que la saison précédente ou pas?
Sur le comportement général, on voit une petite amélioration par rapport à la saison passée. En Ligue 1, en Ligue 2, globalement, on a eu quand même moins d'incidents graves que ce qu'on avait constaté l'année dernière. Je pense par exemple aux envahissements de terrain. Vous savez, à Lille, il y avait eu un envahissement avec des violences. Il y avait eu des affrontements, notamment sur un Saint-Étienne-Lyon, sur la saison dernière. Donc ça, cette année, on n'a pas été confronté à ce genre de problème. La situation, elle paraît un peu plus maîtrisée.
Il y a eu des envahissements de terrain, bon enfant, on va dire, en fin
voilà,
de saison.
Voilà, c'était quand même dans des contextes très différents, par exemple de celui de Lille, ou de Grenoble aussi, avant la montée en Ligue 2 l'année dernière. Donc cette année, globalement, le bilan est plutôt bon. Il y a quand même la nécessité de sécuriser les matchs avec les forces de l'ordre. Il y a plus de 700 interpellations qui ont été faites sur l'ensemble des matchs de football cette saison.
C'est plus que la saison d'avant?
C'est un petit peu moins. C'est une centaine de moins que la saison précédente. Par contre, ce qui n'est pas forcément rassurant et ce qui nous inquiète un peu, c'est le fait que la proportion des violences dans les faits qui justifient des interpellations, cette proportion, elle a augmenté. Et en fait, on s'est rendu compte sur à peu près toutes les journées de Ligue 1 et de Ligue 2 qu'on a eu des faits de violence collective, des violences organisées entre des groupes de supporters. Donc c'est quelque chose qui est revenu assez régulièrement. Souvent, c'est en dehors du stade.
C'est des fights, quoi.
Voilà, pendant le match, soit c'est des rendez-vous qui sont complètement hors stade entre des groupes qui veulent se retrouver parce qu'ils ont un contentieux ancien.
Ça, c'est pas du tout médiatisé, ce genre de choses.
Là, c'est rarement médiatisé. Ouais. Parfois, c'est pas connu non plus, c'est-à-dire qu'on l'identifie malheureusement après, puisque c'est très éloigné des stades eux-mêmes. Parfois,
mais vous arrivez à savoir que ce sont des groupes de gens qui
sont dans un club. Bien sûr, oui. On identifie en tout cas les protagonistes. Après, ce qui se passe aussi très souvent, c'est ce qu'on appelle des violences d'opportunités, c'est-à-dire deux groupes qui se croisent alors qu'ils n'auraient pas forcément dû se croiser autour d'un stade et qui font valoir un contentieux ancien, un vol de badges, de banderoles, etc. Donc ça, malheureusement, c'est revenu assez régulièrement. Ça se concentre un petit peu toujours quand même sur une dizaine de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Par contre, ce qui est un peu plus étonnant, c'est que ça concerne à la fois des grosses affiches de Ligue 1, mais aussi des matchs dont on entend moins parler en Ligue 2. Par exemple, Valenciennes-Lens, vous aviez sans doute entendu parler des incidents. Sur le déplacement lensois dans le centre-ville de Valenciennes où il y avait eu des violences extrêmement graves. Il y avait eu beaucoup d'interpellations. Récemment, on a eu un match entre Grenoble et Nancy avec un vieux contentieux qui est remonté qui a surgi en fait dans le centre-ville de Grenoble avant le match, là aussi
les ultras à Grenoble.
Avec une dizaine de blessés nancéens dont une partie a été hospitalisée. Donc c'est quelque chose finalement qui revient assez souvent et qui nécessite un suivi très attentif des services de police et de gendarmerie.
Alors je rappelle que le 32-16 est ouvert, si vous voulez dialoguer avec nous et avec Antoine Mordac. Il y a eu aussi le fameux Nîmes-Montpellier.
Alors il y a cette année, c'était en deux temps. Il y a eu le Montpellier-Nîmes d'abord, sur lequel le déplacement des Nîmois avait été autorisé. C'est deux clubs qui se retrouvaient après une longue période en étant dans des divisions différentes. Et malheureusement, effectivement, le match a été interrompu. Il y a eu des violences avant et pendant le match entre les supporters. Et donc le match retour entre Nîmes et Montpellier avait fait l'objet d'une interdiction de déplacement pour les Montpellierains.
Alors en novembre, vous nous aviez expliqué le cheminement pour une interdiction de déplacement. Parce que c'est ça le principal grief que les supporters font au pouvoir public aujourd'hui. C'est pourquoi on comprend pas, pourquoi sur tel déplacement tout à coup ça tombe, parce que le préfet fait un peu de zèle et puis alors l'autre préfet dans un autre coin il en fera un peu moins, etc. Bon, aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont ça fonctionne? On sait que vous êtes évidemment vous aussi partie prenante là-dedans puisque vous avez vous les renseignements qui permettent parfois de savoir ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes satisfait du fonctionnement et est-ce que on peut dire que l'année prochaine on va continuer sur la même base de travail avec les préfets?
Bah, sur les déplacements, il y a deux sujets à prendre en compte. D'abord, il y a les tensions et les contentieux dont je viens de parler, qui malheureusement n'aident pas non plus pour permettre des déplacements plus réguliers, puisque quand on se rend compte que des supporters de deux clubs s'affrontent systématiquement, ça ne pousse pas vraiment à autoriser les déplacements sur les matchs suivants. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est la question de la disponibilité des forces de l'ordre. Vous savez que cette saison, la Ligue 1 et la Ligue 2 ont été impactées notamment par le contexte gilet jaune, surtout les journées des samedis, lors desquels il y avait des manifestations et des troubles à l'ordre public très importants. Donc ça, c'est deux paramètres qui sont pris en compte par les préfets, éventuellement au niveau du ministère de l'Intérieur aussi, s'il y a un arrêté ministériel d'interdiction de déplacement, qui est une mesure plus exceptionnelle, mais c'est évidemment quelque chose qui influence les décisions. Donc cette saison, on a été confronté quand même à pas mal de troubles, à une indisponibilité parfois des forces de l'ordre qui ont imposé de prendre des interdictions. Pour moi, la solution sur la saison et les saisons à venir, de toute façon, c'est que sur les matchs sensibles, on continue à améliorer le dialogue avec les supporters et surtout qu'on continue à discuter et à anticiper les risques sur ces matchs-là. C'est-à-dire que plus on aura d'informations fiables sur les modalités de déplacement, plus les clubs, les supporters se responsabiliseront, plus il y aura de déplacements autorisés.
Alors oui, parce que finalement, une interdiction de déplacement, c'est un échec de dialogue, on peut le dire comme ça. On va en reparler, mais juste, c'est fini au Portugal. Arnaud, confirmation, le Portugal qualifié pour la finale de Ligue des Nations.
Exactement, grâce à un homme, Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé ce soir, 3-1, la victoire finale des Portugais. Ils attendront leur adversaire, les Pays-Bas ou l'Angleterre, qui s'affrontent demain.
Merci Arnaud, à demain donc pour l'autre demi-finale. Oui, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là dans votre posture, vous dites, moi je suis commissaire de police, j'interdis. Non, c'est pas votre façon de procéder.
Déjà c'est la compétence du préfet de département que de gérer l'ordre public, notamment autour des stades de football. Donc c'est d'abord eux qui décident, qui éventuellement demandent à titre exceptionnel un arrêté d'interdiction de déplacement sur l'ensemble du territoire pour un match donné. Donc dans ce cas-là, c'est une décision qui est prise par le ministre de l'Intérieur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, sûr, c'est que tous les protagonistes au sein de l'État n'ont pas de lubie à vouloir interdire les déplacements. Les interdictions de déplacement, c'est une réalité lorsque on est en incapacité d'avoir, par exemple, des informations fiables, de savoir comment les supporters vont venir, à combien ils vont venir. Il y a un vrai sujet souvent sur les jauges des tribunes visiteurs où on n'arrive pas jusqu'à la veille de la rencontre à savoir exactement combien et comment les supporters vont venir au stade.
Monsieur le commissaire, en fait, ce qu'ont eu comme impression beaucoup de supporters l'année dernière, c'est qu'en gros, c'était une solution de facilité.
C'est systématique.
De dire, bon, de toute façon, vu qu'il y a des problèmes, d'ailleurs, à vrai dire, j'ai plutôt compris ces décisions. Vous l'avez dit, les forces de l'ordre ont été extrêmement mobilisées, impactées par le contexte social. Mais certains supporters, eux, ont dit bah ouais, mais solution de facilité. Il y a un match, on dit non tout de suite. Et puis de toute façon, après tout, ça emmerde pas grand monde parce que le stade où va avoir lieu le match, il sera plein. Donc le diffuseur ne sera pas lésé. La Ligue, bon bah, verra le match se dérouler dans de bonnes conditions. Et c'est pas parce que 400 mecs ou 500 mecs seront pas venus assister au match que ça causera un réel problème ou un préjudice à qui que ce soit. Les supporters ont pu mal vivre l'idée que c'était la solution de facilité.
C'est pas une solution de facilité, tout simplement parce que finalement ça touche une minorité de matchs. Par exemple, sur cette saison, on a eu à peu près une centaine de mesures, soit d'encadrement, soit d'interdiction. Déjà, il faut préciser que la plupart de ces mesures, c'est pas des interdictions de déplacement. C'est simplement qu'on encadre, c'est-à-dire qu'on fixe un nombre maximum de supporters.
Vous avez le chiffre exact des interdictions?
Les interdictions, ça représente une trentaine de matchs à peu près, sur lesquels il y avait une impossibilité.
Cette saison, il y a eu 30 matchs.
Exactement.
Sur un match simplement, il n'y a pas eu de déplacement.
Il n'y a pas eu de déplacement du tout.
Sur 380 matchs, ça fait.
En Ligue 1, mais j'inclus aussi la Ligue 2, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Europe. Donc, on est quand même sur à peu près 800 à 900 matchs dans la saison.
J'ai l'impression que c'est beaucoup plus.
Non, ça reste quand même limité. Et effectivement, c'est des mesures qui, de toute façon, sont prises lorsqu'il n'y a pas d'autre solution, et lorsqu'on n'arrive pas à organiser sereinement un déplacement de supporters visiteurs.
Et les autres mesures, en fait, c'est pas des interdictions, c'est juste un nombre restreint pour venir.
En général, l'encadrement, c'est un nombre restreint. D'accord. Et ou un point de passage obligé pour arriver au stade dans de bonnes conditions et notamment pour éviter certaines zones extérieures au stade qui permettent d'éviter l'affrontement.
Il y a plein de cas. Hein. On a vu des supporters qui évitaient le point de rassemblement. Donc dans ces cas-là, bien sûr, derrière, ils peuvent pas aller au stade. Donc ça crée. Bon, évidemment, chaque cas est toujours un peu plus médiatisé que quand les choses se passent bien. C'est évident. C'est toujours comme ça que ça se passe. J'ai pas mal de réactions sur Direct Studio. Easy qui me dit évidemment, il y a moins de problème, vu qu'on peut plus se déplacer. Bon, là, on voit, les chiffres expliquent bien que finalement, ça représente quand même moins de 10% des matchs de la saison qui sont impactés par des problèmes. Alexandre qui lui dit, moi, je vais régulièrement au Groupama Stadium à Lyon et honnêtement, je me sens pas 100% en sécurité. Donc voilà, après, chacun vit son match.
Il y a l'autre argument qui est souvent avancé, c'est ceux qui disent, en Allemagne, zéro interdiction. Les huis clos, c'est encore autre chose parce que c'est la Ligue en fonction de ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, ça n'a rien à voir. Mais il n'y a jamais ce genre d'interdiction. Qu'est-ce qu'ils font de mieux? Est-ce que vous êtes allé observer comment ça se passait?
Déjà, les comparaisons internationales, elles sont assez difficiles parce qu'il y a des contextes souvent qui sont différents. Mais si on prend l'exemple de l'Allemagne, je crois que la différence, c'est qu'il y a un dialogue qui fonctionne bien avec des groupes de supporters.
Ça veut dire quoi? Parce que vous dites un dialogue qui se passe bien, c'est quoi en fait?
Ça veut dire, par exemple, des groupes de supporters qui sont plus structurés, qui ont des interlocuteurs. Au sein des clubs, il y a des référents supporters. Je pense qu'on en reparlera. Ouais. C'est une fonction qui se développe beaucoup depuis deux ans sous l'impulsion de la Ligue de football professionnel. Donc ça, c'est des interlocuteurs.
Un porte-parole, un vrai représentant.
Des représentants côté supporters, des responsables en charge de la question des supporters au sein des clubs et qui permettent d'anticiper aussi les matchs.
Alors là-dessus, on est en retard, il me semble, quand même.
Il y a peut-être un retard en France. Daniel. On a quand même des bons exemples. Moi, je voudrais vous parler, par exemple, de la finale de la Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp à Lille. 20 000 Strasbourgeois, 15 000 Guingampais qui sont allés à Lille. Il y a quasiment 10 000 Strasbourgeois qui ont organisé ce qu'on appelle une fan walk entre le centre-ville de Lille et le stade Pierre-Mauroy. Il y a eu quelques incidents, mais très limités. Et ça, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a eu.
Dans les finales de coupe.
Je veux raconter cette histoire.
Ouais,
Daniel.
Souvent dans les finales de coupe,
parce qu'il y a une vraie anticipation.
Avec 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, et on a le sentiment que
là, ça va, il y a pas de.
Ouais. Alors, je vais juste témoigner parce que moi, j'étais présent et je suis allé voir par curiosité la, cette fameuse marche là. Bon, c'était Strasbourg, donc évidemment, vous comprenez bien qu'il fallait que je voulais voir ça. À Strasbourg, il y a dans chaque club en Ligue 1 aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un référent supporter qui est salarié du club hein, et qui sert de tampon entre les groupes de supporters ultra ou pas ultra et le club. À Strasbourg, on a fait le choix de confier cette mission à un homme qui est très compétent, mais je l'ai rencontré plusieurs fois, qui est un ancien ultra, donc qui connaît par cœur les gars qui a un rapport avec eux cordial, honnête et franc. Et je veux dire, ils ont organisé cette marche là, ils n'étaient pas super sereins quand même. Je veux dire, il peut y avoir des problèmes. Bon, ben les rapports font que tout s'est passé de façon assez naturelle. Donc c'est le boulot de ces référents supporters, quand il est bien fait et qu'il fonctionne bien. On constate directement que, et je finirai sur Strasbourg, il n'y a pas une interdiction de stade, il y a très peu d'interdiction de déplacement et tout. Donc ça se passe globalement bien, alors qu'il y a un COP qui est assez conséquent quand même. Oui, donc le référent supporter, ça marche.
Et sur ce match-là, c'est un exemple justement parfait où il y a eu des réunions en préfecture assez tôt, où le club effectivement s'est présenté avec son référent supporter et en fait, il a apporté des informations, des garanties, des éléments en démontrant que ça allait être organisé correctement, que le club s'impliquait aussi dans ce déplacement. Et effectivement, ce défilé, il s'est très bien passé entre le centre-ville et le stade. Donc, il y a des exemples comme ça. Plus récemment, il y avait les play-offs en Ligue 2 avec des très gros déplacements de Lens. Les Lensois, ils sont venus à 7000 quasiment contre Paris, le Paris notamment. FC. Ils sont allés à 3000 quasiment aussi à 3. Parce que là aussi, il y a eu une organisation, il y a eu une anticipation sur la billetterie, sur la préparation du match. Il y a eu quelques incidents, mais très limités là aussi. Parce que, en tout cas, sur le gros des supporters, il y avait une vraie discussion et un vrai engagement des différents acteurs pour que ça se passe bien.
Dans quelques instants, Nicolas prendra la parole. Alors lui, il est ultra de Toulon. Et oui, il y a encore des ultras à Toulon. Ils montent, hein, Toulon National cette année.
C'est bien,
on va en parler dans quelques instants. On va aussi parler de la Coupe du Monde féminine dans quelques instants, puisque c'est en France, donc ça vous concerne également. Et bien sûr, l'after continue. N'oubliez pas que la draft sera là en fin d'after tout à l'heure. Et n'oubliez pas également qu'on va parler de foot africain avec l'incroyable histoire de la finale de la Ligue des Champions tout à l'heure, aux alentours de 23h30.
RMC, l'after foot. Gilbert Bribois.
22h50, l'after est là. Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Antoine Mordac, commissaire bien sûr, responsable de la division anti-hooligan et qui donc s'occupe de toutes les problématiques liées au football en France toute l'année.
Ah, j'ai une question.
Ah mais d'abord Benjamin, si tu veux bien.
Non, mais après, je vais perdre ma question.
Mais t'inquiète, on a le temps. Benjamin, bonsoir.
Oui, bonsoir messieurs, salut à tous.
Bonsoir Benjamin, t'es supporter rennais, hein, je le précise.
Exactement.
On t'écoute.
Bravo.
Benjamin.
Eh ben écoute, moi ma question va être en rapport un peu avec ce que Rennes a vécu cette année, à savoir qu'on a pu faire des déplacements en Europe et des déplacements en France habituels avec la Ligue 1. Le commissaire parlait tout à l'heure de la difficulté à traiter le nombre et notamment les modalités de transport. Donc nous, les déplacements à Séville et Arsenal, on était plusieurs milliers à venir avec différents moyens de transport. Et dans ces deux cas-là, ça s'est très bien passé. Donc je voulais savoir en fait quelle chose il prenait de positif dans l'organisation européenne pour copier son championnat de France, sachant que nous, on n'est pas un public réputé, je pense, violent, mais il pourra le confirmer ou l'infirmer. Et on a eu un déplacement à Nantes où bah, ça s'est mal passé, alors que tout était bien encadré. En fait, on a été gardé dans le car jusqu'à 5 minutes avant le coup d'envoi et ça s'est terminé avec des points de suture, des coups de matraque. Donc voilà, en fait, je voulais avoir non pas des explications sur le déplacement à Nantes parce qu'il n'en aura peut-être pas à nous fournir, mais sur, de façon plus générale, en quoi il considère qu'il y a des failles en France que l'Europe arrive à gérer, elle.
Alors, Antoine Mordac.
Je crois pas qu'il y ait de failles en France sur ce sujet-là, parce que si on prend l'exemple, par exemple, de la Coupe d'Europe cette année du parcours de Rennes, il y a effectivement eu des gros déplacements des Rennais à l'étranger, mais il y a eu aussi des gros déplacements des Sévillans, des supporters d'Arsenal à Rennes, qui n'ont pas posé de difficultés particulières. La différence peut-être avec la Ligue 1, c'est d'abord que c'est des matchs où il n'y a pas de contentieux entre les supporters. Entre les Rennais et les supporters d'Arsenal, il n'y avait pas de difficultés particulières à faire venir plusieurs milliers de supporters. Il y a eu une organisation à mettre en place. Ça a été un sujet notamment pour le déplacement des Rennais à Séville, où il y a eu des initiatives qui ont été prises pour réussir à bien organiser le déplacement, mais finalement la différence principale elle est là pour moi, c'est que c'est des matchs très particuliers qui se jouent dans un contexte souvent où il n'y a pas de tension comme ça peut être par exemple le cas entre Rennes et Nantes, entre d'autres clubs qui ont des inimitiés en tout cas au niveau de leurs supporters.
C'est souvent les contentieux qui sont source de problèmes.
Souvent on se retrouve, alors on connaît les affiches habituelles entre Lyon et Saint-Etienne, entre le PSG Marseille, entre Marseille et Lyon.
Et après il peut y avoir des contentieux,
etc. Mais voilà, il y a aussi sur des matchs plus modestes sur lesquels il y a un contentieux. Par exemple, cette année, il y a encore eu des incidents graves entre Angers et Guingamp, où il y a un contentieux ancien entre les ultras des deux clubs, qui s'est fini avec un caillassage de bus, avec des blessés du côté de Guingamp après le match à Angers, qui a nécessité une enquête judiciaire et des interpellations parmi les ultras d'Angers. Donc ça, c'est pas forcément identifié, mais c'est une réalité. Et paradoxalement, c'est quelque chose qu'on retrouve plus facilement et plus souvent qu'entre deux clubs européens sur une compétition qui finalement est plus ponctuelle.
J'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure quand je vous ai posé la question sur l'Allemagne. Vous avez parlé de référents supporters, de dialogue. Est-ce que le fait à un moment d'avoir beaucoup dissous de groupes de supporters, ça a pas justement enlevé les interlocuteurs, les personnes avec qui échanger justement.
Il y a pas eu tellement de groupes qui ont été dissous.
Il y a des Saint-Etienne, bon Paris.
Ça a été principalement autour du PSG et après il y a eu effectivement quelques groupes Bordeaux, à Bastia, beaucoup, à Saint-Etienne.
Marseille, des groupes dissous, il y en a eu beaucoup.
Mais
quand même.
C'est des groupes qui en général de toute façon créent un certain nombre de troubles dans les stades et avec lesquels il n'y avait pas particulièrement d'interlocuteurs qui étaient prêts à discuter avant les matchs.
Le truc c'est qu'on peut pas trop savoir dans ce cas-là. Est-ce qu'on reprend un dialogue ou est-ce qu'on dissout et comme ça il y en a plus du tout.
Déjà, ça remonte à quelques années. Depuis, il y a des groupes qui se sont remontés et je peux vous dire qu'il y a vraiment des grandes différences selon les groupes, selon les clubs. Certains sont prêts et très motivés pour discuter, pour s'engager sur des modalités de déplacement. On a parlé de Strasbourg tout à l'heure, c'est un très bon exemple, c'est pas le seul. Et puis, il y a effectivement d'autres groupes de supporters qui, eux, de toute façon, ne souhaitent pas du tout rentrer dans une logique de dialogue. C'est leur choix, mais
derrière...
Comment ça,
les groupes qui sont pas dans une logique de dialogue ?
Il y a des groupes qui sont clairement dans une logique d'affrontement et qui considèrent
des groupes de supporters par exemple
il y a des groupes stéphanois, il y a des groupes marseillais qui sont pas du tout dans une logique
avec qui
de discussion.
Avec qui vous ne pourrez pas avoir un référent ou un porte-parole,
des référents supporters. En revanche, quand on a besoin de leur demander à combien ils veulent venir, par quel moyen de transport, il est plus compliqué d'avoir des réponses.
Dans quelques instants, on revient avec d'autres questions. Nicolas, toujours là, notre supporter de Toulon qui patiente.
On vient faire une pub.
Ouais, on en fait une.
Ah, ça rentre le cash, hein.
Voilà, ouais. Bah, il faut bien te payer, mon vieux.
Putain, non, mais ça, c'est la phrase bateau.
Ouais, ouais.
C'est dommage. Bah, maintenant, vous êtes deux en plus.
Ah, mais moi, c'est normal, mais. Pas cool, hein.
Allez, à tout de suite dans l'after.
Bien ce qu'on fait.
RMC, l'after foot.